un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est mort. Il vivait en exil en Arabie Saoudite depuis sa chute en 2011. Nous irons à Tunis dans un instant. Y aura-t-il un gouvernement d'union nationale en Israël? C'est la proposition surprise de Benjamin Netanyahou, proposition sèchement rejetée par son rival Benny Gantz. Nous l'entendrons. En France, à l'approche du débat sur l'immigration, des députés de la majorité prennent la défense de l'aide médicale d'État, une aide qui relève selon eux du devoir de la France et qui a un rôle indispensable de prévention. Jean-Luc Mélenchon se juge victime d'un procès politique. Antoine Maret suit pour nous le procès pour rébellion du leader de la France insoumise. Il vivait en exil en Arabie, où il était parti après son renversement en 2011. L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est mort à 83 ans des suites d'une maladie. La justice tunisienne réclamait depuis 2012 l'extradition de l'ancien raïs, condamné par contumace à plus de 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Le président Ben Ali avait été poussé dehors par un grand mouvement de contestation le premier des printemps arabes. On retrouve à Tunis Maureen Mercier.
Ben Ali vient de mourir en Arabie Saoudite. Les mots de son avocat qui avait déjà annoncé il y a une semaine que la santé de Ben Ali se détériorait. Sa fille avait démenti. Le ministère des Affaires étrangères vient de confirmer son décès. 83 ans, Ben Ali a régné d'une main de fer sur son pays durant 23 ans. Militaire, en 1983, il destitue le père de l'indépendance, Habib Bourguiba. Dans un premier temps, cela ouvre une parenthèse optimiste, mais l'étau se resserre très vite. Il devient autoritaire. En 1992, Ben Ali épouse celle qui deviendra Leila Ben Ali, une ère de corruption au profit de cette famille d'Emars. La belle famille s'accapare toutes les richesses du pays en toute impunité. En décembre 2010, l'immolation d'un vendeur ambulant déclenche une vague de protestations populaires. La foule crie « Dégage » au dictateur. Le 14 janvier 2011, Ben Ali fuit vers l'Arabie Saoudite. La justice tunisienne le poursuivra pour abus de pouvoir, détournement de fonds, atteinte à la sûreté de l'État. Ici en Tunisie, il est 5 fois condamné à la perpétuité. Son exil en Arabie Saoudite lui a permis d'échapper à la justice.
En Israël, le président Rivlin entamera dimanche les consultations pour désigner le prochain Premier ministre. Les résultats des élections législatives sont toujours provisoires et toujours extrêmement serrés. Ils donnent 33 sièges au parti bleu-blanc de Benny Gantz et 31 au Likoud de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre qui a créé la surprise ce matin en proposant un rapprochement à son rival, un gouvernement d'union nationale. Mais si Benny Gantz est d'accord pour un large rassemblement, il n'a pas du tout l'intention de s'allier à Benjamin Netanyahou, Frédéric Mettezo.
Oui, exactement, Aurélie. Droit dans ses rangers, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. La déclaration de Benny Gantz a été courte et tranchante au quartier général de Bleu-Blanc à Tel Aviv. Il a toujours défendu un gouvernement d'union nationale, y compris avec la droite, mais sans Netanyahou à cause des affaires financières dans lesquelles il est mis en cause. Alors, sans citer son nom, il repousse toute alliance avec lui. Écoutez.
Bleu Blanc est le premier parti politique. Les citoyens d'Israël voulaient déjà un gouvernement d'union nationale aux dernières élections et ils le veulent encore. Je souhaite un gouvernement libéral de large union nationale sous ma direction. Nous avons commencé à constituer notre gouvernement, nous ne céderons à aucun diktat.
En réponse, Benjamin Netanyahou s'est dit surpris et déçu. Il sait qu'il n'aura pas de majorité avec les seuls partis de droite et partis religieux. Et s'il veut y parvenir, désormais, il devra débaucher des élus d'autres mouvements. Mais Gantz aussi doit renforcer son bloc. Alors avec les députés arabes devenus troisième force du pays, avec le nationaliste laïque Lieberman, avec les deux ensemble, ce qui ne semble pas forcément évident, chacun remettra ensuite sa copie au président israélien qui désignera normalement le futur premier ministre la semaine prochaine.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem. Les États-Unis disent privilégier une solution pacifique après l'attaque d'installations pétrolières en Arabie ce week-end. L'Iran nie toujours être à l'origine de ces attaques, mais se trouve en position d'accusé. Hier, Riyad a montré des débris présentés comme des preuves de la responsabilité de Téhéran. Bonsoir Bertrand Guéliché.
Bonsoir Aurélie.
L'Iran accuse en retour l'Arabie Saoudite et les États-Unis de préparer les esprits à l'éventualité d'une guerre, promettant de ne pas se laisser faire.
Oui, et les dernières déclarations iraniennes et américaines à propos des menaces de guerre dans le Golfe deviennent franchement asymétriques. Interrogé cet après-midi par CNN sur la réaction de Téhéran à une éventuelle attaque américaine ou saoudienne sur son sol, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, répond sans détour.
An all-out war.
Ce serait une guerre totale. Je suis très sérieux quand il s'agit de défendre notre pays. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas d'un affrontement militaire. Un conflit armé fondé sur une tromperie serait horrible. Il y aurait beaucoup de victimes. Mais nous ne tremblerons pas pour défendre notre territoire. Une fermeté qui tranche avec les propos conciliants tenus presque au même moment par le secrétaire d'État américain en tournée dans le Golfe. Mike Pompeo assure vouloir bâtir une coalition destinée à parvenir à la paix et à une solution pacifique. Et il espère que l'Iran voit les choses de la même manière, tout en précisant qu'il existe un consensus des pays du Golfe sur la responsabilité des Iraniens. Washington veut calmer le jeu, en tout cas gagner du temps d'ici à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine. Donald Trump est embarrassé, piégé entre la nécessité de soutenir son allié saoudien et son hésitation à riposter militairement alors qu'il est en campagne pour la présidentielle de 2020. Quant à l'Arabie saoudite, elle attend un geste fort des États-Unis. Hier, le prince héritier Mohammed Ben Salman a jugé que l'attaque contre les sites pétroliers constitue un véritable test de la volonté mondiale face à l'Iran.
Bertrand Galichet. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'excuse. Alors que la campagne électorale pour les législatives a commencé, le chef du gouvernement est très embarrassé par l'apparition d'une photo le montrant grimé en noir. Le cliché publié par le Time remonte à 2011. Justin Trudeau, alors professeur à l'école privée de la West Point Grey Academy, porte une tunique blanche, un turban, et il a le visage peint d'un maquillage sombre. L'affaire fait polémique au Canada et Justin Trudeau présente donc ses excuses, reconnaissant la portée raciste de la pratique du blackface, Nathanaël Charbonnier.
Le sujet est sensible et il s'invite à un moment particulier puisque les élections législatives arrivent à grands pas. Elles se dérouleront le 21 octobre prochain. Conséquence, le Premier ministre canadien a senti le danger. Il n'a pas cherché à expliquer qu'il s'agissait d'une autre époque. Il n'a pas cherché de circonstances atténuantes. D'emblée, il a reconnu les faits. Et surtout, d'emblée, il s'est excusé en reconnaissant la portée raciste de cette pratique.
En 2001, dans le gala de fin d'année de l'école, je me suis déguisé en costume d'Aladin, y compris avec du maquillage. J'aurais dû savoir, même à cet âge-là, que j'aurais pas dû faire ça. Je m'en excuse profondément.
Et Justin Trudeau d'enfoncer le clou en demandant pardon aux Canadiens pour ce qu'il qualifie lui-même de bêtise, c'est redoutable pour lui parce qu'il s'est toujours présenté comme étant respectueux des religions. Quand il va en Inde, il s'habille en hindou. Quand il vient en France, il va visiter Notre-Dame après l'incendie de la cathédrale. Ou encore, lorsque s'ouvre le ramadan, il s'exprime à la télévision devant le drapeau canadien.
Assalamu alaikum. Cette semaine, les musulmans au Canada et partout dans le monde marquent le début du ramadan. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous les musulmans un très joyeux ramadan. Ramadan Moubarak.
Justin Trudeau, qui adore se présenter comme un homme tolérant, respectueux, avec cette affaire se prend les pieds dans le tapis, l'opposition l'a bien compris. Son principal rival pour le scrutin, le conservateur Andrew Scheer, estime que Justin Trudeau est inapte à diriger le pays. Il faut savoir enfin que le blackface est une pratique qui consiste pour une personne blanche à se maquiller en noir. Ce genre d'attitude est apparu en Europe au XVIIe siècle. Il s'agissait à l'époque de se moquer des Noirs. Aujourd'hui, la pratique est considérée comme insultante et raciste. La communauté noire au Canada représente environ 1 million de personnes sur les 32 que compte le pays. Elle a souffert comme aux États-Unis de la ségrégation. Et même si les choses ont changé, les membres de cette communauté noire continuent d'être sérieusement désavantagés, notamment en matière d'emploi.
Atmosphère de meeting électoral au tribunal de Bobigny. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches sont poursuivis pour rébellion après les incidents qui ont émaillé les perquisitions du 16 octobre 2018 à plusieurs domiciles ainsi qu'au siège de la France Insoumise. Les six prévenus ne sont pas venus seuls. D'autres élus et hauts responsables de la France Insoumise sont venus leur apporter leur soutien, sans oublier les militants qui, eux, ont dû rester à l'extérieur. En tout cas, tous derrière Jean-Luc Mélenchon dénoncent un procès politique. Antoine Maret, vous avez suivi cette première journée d'audience et l'après-midi a été marqué par la très longue audition de Jean-Luc Mélenchon.
2h30 d'audition pendant lesquelles Jean-Luc Mélenchon ne regrette rien et semble avoir réponse à tout. Pourquoi crie-t-il dès le début de son arrivée sur le lieu de la perquisition? Parce qu'il a été réveillé par une précédente perquisition à son domicile à 7h du matin. Il est dans un état de sidération. Il évoque un extraordinaire sentiment d'humiliation. Je parle fort car j'ai toujours parlé fort. J'ai crié, donc je suis coupable. Mais coupable de quoi? Et puis un peu gêné, il ajoute, je suis malentendant et en cas de vacarme, je ne distingue plus ce que disent les uns et les autres. Vous m'entendez ? Ironise Éric Dupond-Moretti qui donne ainsi le ton du face-à-face entre les deux tribuns. Monsieur Mélenchon, on va vous accorder la présomption d'innocence dans les deux affaires à l'origine des perquisitions. Vous êtes trop bon, répond le leader de la France insoumise. Non, c'est la loi, rétorque l'avocat, qui tente de recentrer le débat sur l'intimidation et la rébellion. Il lui demande s'il a l'intention de présenter ses excuses aux deux parties civiles qu'il représente. Réponse ironique de Jean-Luc Mélenchon qui se tourne vers le policier, le gendarme. Je regrette profondément de vous avoir occasionné 7 jours d'arrêt maladie par mes décibels. Vous présentez vos excuses pour les décibels, mais il y a aussi les mots, rétorque l'avocat. Et les mots, le député les assume tous, mais il semble plus mal à l'aise quand le procureur lui demande pourquoi il a poussé violemment un fonctionnaire d'autorité. J'ai eu une attitude normale que j'ai estimée politiquement nécessaire, j'ai adapté mon comportement. Il dénonce une perquisition politique et un procès politique met en cause la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Quant à la phrase devenue célèbre « Ma personne est sacrée », il déclare « Le plus terrible, c'est que je le pense ».
Antoine Maret en direct du tribunal de Bobigny avec Nicolas Mathias à la technique. À 10 jours du débat sur l'immigration à l'Assemblée, 35 députés publient une tribune dans l'Opinion. Ils appellent le Premier ministre à ne pas toucher à l'aide médicale d'État qui permet aux personnes sans papier présentes en France depuis plus de 3 mois d'être soignées. L'an dernier, cette aide était versée à plus de 315 000 personnes. Pour le gouvernement, il faut en maîtriser le coût et une réduction des soins pris en charge par l'AME a été évoquée du côté de l'exécutif, ce qui a créé un vrai malaise parmi les élus LREM et Modem. Morgane Huclin-Refait.
Oui, près de 935 millions d'euros, c'est le budget prévu pour l'aide médicale d'État cette année, justifié pour la députée LREM Martine Vonner qui a écrit cette tribune. Selon elle, les soins pour les personnes en situation irrégulière doivent primer sur toute logique comptable.
Bien évidemment, il convient de leur permettre d'accéder à tous les soins, de ne pas réduire le panier de soins, de ne pas laisser de reste à charge, parce que c'est pas très compliqué de comprendre que si l'accès aux soins primaires n'est pas garanti, ces personnes se retrouveront de toute façon à l'hôpital, ce qui serait beaucoup plus onéreux.
Enlever certains soins courants du périmètre de l'AME, c'était une piste, mais en interpellant le Premier ministre, la députée Modem Nadia Essayan espère bien l'avoir enterré.
Je ne serais pas d'avis de réduire les soins pris en charge. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un petit recul par rapport à cette éventualité. Et je pense qu'on restera sur les soins pris en charge actuellement, qui sont plus larges que seuls les soins d'urgence, comme cela avait été plus ou moins esquissé. Et je pense que c'est une bonne chose.
Alors, pas question pour l'heure d'émettre des critiques trop vives envers l'exécutif. Attendons de voir ce que donnent les débats. C'est le message de Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire.
Certes, il y a eu des questionnements au niveau de l'exécutif. Au sein de notre majorité, c'est vrai qu'on a une pluralité de vues. Donc regardons, objectivons les choses, mais le principe même de l'aide médicale d'État n'est pas remis en cause par notre majorité. Nous y sommes très attachés.
Dans son discours sur l'immigration lundi, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la co-construction. Une réunion de la majorité est d'ailleurs prévue mardi avec les ministres concernés avant un débat le 30 septembre qui s'annonce compliqué.
Le sort des 1150 salariés d'Aigle Azur est plus que jamais incertain. Les deux groupes les mieux positionnés pour la reprise de la deuxième compagnie française ont décidé de jeter l'éponge. Air France et le groupe Dubreuil qui détient Air Caraïbes ont renoncé à faire une offre combinée alors que c'était le scénario envisagé ces derniers jours. Alors Anne-Laure Jumet, pourquoi ont-ils abandonné ?
Eh bien les deux compagnies le disent, elles ont tenté de mettre sur pied une offre commune, le moyen courrier pour Air France, le long courrier pour Air Caraïbes, mais ça n'a donc pas abouti et dans un communiqué, le groupe Dubreuil justifie cette décision par les montants en jeu et les risques sociaux associés à la reprise des salariés. Chez Air France, on est plus flou, invoquant des questions juridiques, sociales et financières. Il semble notamment que les pilotes d'Aigle Azur aient été difficiles à intégrer aux conditions d'Air France. Les deux compagnies ont par ailleurs le même discours à l'intention des personnels avec l'Azur, qui n'hésite pas, s'il le souhaite, à postuler chez nous. Il y a de la demande. Pas sûr que ça passe chez les syndicats, à qui le gouvernement avait dit ces derniers jours qu'il ferait tout pour éviter la liquidation de la deuxième compagnie aérienne française. Et voilà, aujourd'hui, qu'il n'y a quatre offres de reprise sur la table. Celle d'abord des anciens dirigeants de la compagnie Hop, mais ces derniers réclament une aide de l'État à hauteur de 15 millions d'euros. Et ce dossier est regardé aujourd'hui sans enthousiasme par Bercy. Il y a aussi l'offre de l'actionnaire d'Aigle Azur, Gérard Roy, celui qui avait tenté au mois d'août de prendre les commandes de la compagnie. Lui assure être en capacité de mettre 15 millions d'euros sur la table pour reprendre 82% des contrats de travail. Reste aussi l'offre de la compagnie espagnole low-cost Vueling. Mais selon nos informations, ce n'est qu'une lettre d'intention et aucun personnel n'est repris. Enfin, dernière proposition, celle d'un ancien pilote d'AOM, Fernand Danan, mais elle n'a pas de fondement sérieux, nous précise une source gouvernementale. Bref, si le tribunal de commerce d'Evry estime qu'aucune de ces offres n'est viable, ce sera sans aucun doute la liquidation pour Aigle Azur, avec à la clé une redistribution par appartement de ces créneaux de vol.
Anne-Laure Jumet, va-t-on vers la fin de la crise au journal Le Monde? Il y a en tout cas une volonté d'apaisement. L'actionnaire Mathieu Pigas a finalement accepté de signer un droit d'agrément que réclamait le pôle d'indépendance du journal. Ce droit d'agrément donne la possibilité au pôle d'indépendance de refuser l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire. Bonsoir Laura Dulieu.
Bonsoir.
C'est donc une première victoire pour les salariés, les journalistes et les lecteurs du Monde. Mais, car il y a un mais, le texte signé par Mathieu Pigas est légèrement modifié par rapport à la version signée par Xavier Niel.
Oui, effectivement. Alors d'abord, chacun s'accorde désormais sur le principe du droit d'agrément. En clair, le pôle d'indépendance pourra refuser l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire à condition d'en trouver un autre à la place et à un prix plancher pour ne pas qu'il y ait de perdants dans la vente de départ. Ce bras de fer avait été déclenché il y a un an quand Mathieu Pigas avait vendu par surprise 49% de ses parts à l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský, puis en juillet dernier, quand le même Mathieu Pigas avait annoncé être entré en négociation exclusive avec le groupe espagnol Prisa, actionnaire minoritaire du Monde, pour lui racheter ses parts, alors même que les négociations sur le droit d'agrément étaient toujours en cours. Ce projet avait été vu comme, je cite, une agression par Xavier Niel. Finalement, Mathieu Pigas fait un geste et propose à Xavier Niel de racheter à parts égales les actions de Prisa, ce à quoi Xavier Niel a lui aussi opposé des conditions. Ses parts devront être données directement au pôle d'indépendance, ce qui lui donnerait beaucoup plus de pouvoir. Écoutez Raphaël Baquet, journaliste au Monde et membre de la Société des rédacteurs du journal.
Nous, on est d'accord avec cette proposition puisqu'elle nous donne des droits supplémentaires. Nous attendons donc que Mathieu Pigas y réponde. Donc on se donne quelques jours pour cela et nous verrons dans quelques jours s'ils peuvent se mettre d'accord. Évidemment, il faut que le texte de l'accord agrée tous les actionnaires. Il faut qu'il soit vraiment signé dans les mêmes termes. Donc pour l'instant, la balle est dans le camp de Mathieu Pigas.
Voilà pour le court terme. Et pour le moyen terme, Xavier Niel propose aussi de créer une fondation. Une fondation pour, dit-il, sanctuariser l'indépendance du journal.
Laura Dulieu. Et nous concluons ce journal par une escapade en Espagne. Le palais de Liria, l'un des joyaux cachés de Madrid, ouvre enfin ses portes quotidiennement au public. Cette résidence des Ducs d'Albe, la famille aristocrate la plus titrée d'Europe, est décrite par la presse espagnole comme un Prado en miniature, en référence au célèbre musée madrilène. Et effectivement, la comparaison se tient compte tenu de la richesse des peintures, de Rubens à Goya, de Titien à Velázquez. Je vous propose tout de suite une visite guidée du palais de Liria avec Mathieu de Taillac.
Le palais est situé en plein centre-ville de Madrid, calle Princesa, mais dès qu'on pousse la porte, on tombe dans un jardin et dans un autre univers. Loin des klaxons, la résidence est encore habitée par Carlos Juan Fitz James Stuart y Martinez de Irujo, plus connu sous son titre de Duc d'Albe. Visiter le palais de Liria, c'est se promener dans 1000 ans d'histoire d'Espagne, comme le précise l'audioguide.
L'histoire de la maison d'Albe se mêle avec l'histoire de l'Espagne elle-même, remonte à la conquête de Tolède, au XIe siècle.
Après l'introduction, on grimpe au premier étage voir les salons, un par peintre ou par école d'art. Ici, le salon flamand.
Charles Quint et l'impératrice Isabelle est une version magnifique de Rubens, inspiré d'un tableau original perdu de Titien.
À chaque salon, son ou ses chefs-d'œuvre, car les plus grands peintres étaient les protégés des ducs d'Albe, qui les choisissaient pour leur dresser le portrait.
Lorsque Francisco de Goya prend cette commande, cela fait longtemps qu'il est ami des ducs d'Albe et bénéficie également de leur mécénat.
Dernière visite, la bibliothèque et ses 20 000 volumes, dont par exemple 21 documents signés par Christophe Colomb, parmi les 43 qui existent au monde. En ouvrant son palais au public tous les jours de la semaine, le duc d'Albe dit répondre à une demande de la population. à 14 euros l'entrée, c'est aussi une manière d'assurer les liquidités d'une famille richissime, mais dont le patrimoine coûte très cher à entretenir.
Mathieu de Taillac à Madrid, et vous pouvez prolonger la visite du palais de Liria sur franceculture.fr. Demain vendredi, le sud sera sous les nuages avec un risque d'averse sur les reliefs. Ailleurs, le soleil sera généreux du matin au soir. Au lever du jour, il fera 3 à 19 degrés du nord au sud. Les maximales seront en hausse, 19 à 24 au bord de la Manche et près des frontières du nord, 22 à 29 sur le reste du pays, jusqu'à 32 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.